Alléluia, merci. Merci pour ce temps de culte déjà. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une prédication avec tout ce que nous avons entendu et vécu, mais je vais quand même me conformer. C'est comme la mère de famille qui a déjà préparé le repas. Elle dit, on a déjà bien grignoté. Est-ce qu'il y a besoin de manger? Puis quand même, elle dit, bon, j'ai cuisiné, on va quand même passer à table. Merci, vraiment. Alors, je vais certainement ce matin en surprendre plus d'un par le choix de la lecture et du commentaire qui en découle. Je sais que la prédication est un moment particulier où la foi est édifiée à partir de textes que l'on considère comme fondateurs et signifiants pour exhorter le croyant ou l'Église dans sa mission au milieu du monde. Et je me souviens que pour le culte en commun des assemblées évangéliques il y a 15 jours, le pasteur que nous avons invité m'a demandé si nous avions un thème ou une direction que nous souhaitions lui voir aborder. Et je doute qu'il aurait été enthousiasmé si je lui avais proposé le texte de ce matin comme point de départ de sa prédication. Donc vous allez devoir faire avec. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il règnera sur la maison de Jacob éternellement. » Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans près de 6 semaines, nous allons célébrer Noël. Et dans nos traditions protestantes, il nous est plus courant de porter notre attention et même de tirer des enseignements spirituels du bœuf et de l'âne qui auraient été présents pendant cette fameuse nuit que de la présence de Marie. Alors, s'il y a dans la Bible un personnage qui fait l'objet dans l'histoire de l'Église de polémiques et d'interprétations très divergentes, c'est bien le personnage de Marie. Il me semble que personne ne parle véritablement bien d'elle. J'irai dans la piété populaire catholique, on tente à placer Marie sur le même plan presque que Jésus-Christ. On en fait presque une divinité féminine. Certains ont même été jusqu'à dire qu'elle est quasiment la transposition d'Astarté, la reine du ciel, dans le culte assyro-babylonien. Certains ont avancé l'idée qu'elle pourrait être, dans le christianisme, une co-rédemptrice, quelqu'un qui est à la même hauteur que Jésus-Christ. Alors, il faut bien sûr faire la part des choses et puis reconnaître que ce n'était pas la position officielle dans l'Église catholique. Et on a eu un excellent et merveilleux partage avec nos frères catholiques dans le groupe écuménique il y a quelques années, quand on a travaillé sur la question de Marie. Alors, parfois, il peut y avoir malgré tout une confusion qui est entretenue dans le peuple de Dieu. Et puis, pour nous, protestants, on ne ferait pas cette erreur-là, bien sûr. Nous ne disons jamais rien de faux sur Marie. D'ailleurs, il n'y a pas de risque puisqu'on n'en parle jamais. C'est pas vrai? Je me suis posé la question il y a une quinzaine de jours quand j'ai eu cette pensée de lire ce texte-là et de voir, mais qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de l'Annonciation ? Et j'ai une idée, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas le mettre dans la gêne, mais je sais que Michel, depuis 50 ans, colorie sa Bible. Et je me suis dit, ce passage de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il y a comme couleur ? Est-ce qu'il y en a ? Parce qu'on a une telle prévention, une telle crainte de mettre en avant Marie, que finalement, on l'écarte totalement. Mais vous savez quoi ? C'est dans l'Écriture. C'est la parole de Dieu. Alors, nous, c'est vrai, on s'empresse de dire que les évangiles parlent très peu d'elle. C'est vrai, elle apparaît peu dans les évangiles. Pourtant, il ne fait aucun doute que Marie a été une source d'information majeure pour l'évangéliste Luc, tout simplement parce que Luc, c'est un médecin. Et c'est un médecin qui s'occupe d'une femme qui va être enceinte. En tout cas, qui la connaît. Et qui va construire son évangile, notamment en faisant une enquête auprès de tous les témoins. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui est dit de lui. Et le témoin principal qui va les questionner, c'est Marie. Alors, il y a de nombreux éléments qui n'ont pas été donnés dans l'évangile de Luc, si ce n'a pas été fait par Marie elle-même. Alors, lui donner une trop grande importance, ou ne pas lui en donner du tout, il y a deux attitudes extrêmes. Et si nous avions une approche un peu plus équilibrée, si nous laissions, et j'ai apprécié ce matin la mention de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Mais est-ce que nous pouvons aussi laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la lecture de l'Écriture ? Et c'est ce matin quelque chose que j'ai envie de vivre avec vous. Parce que Marie, de l'Écriture, peut être pour nous un modèle de foi. Et je dirais que non seulement elle peut être un modèle de foi, mais ce qu'elle a vécu est certainement quelque chose que nous avons à vivre aussi. Et si l'Annonciation nous concernait aussi, l'annonce de la naissance de Christ en nous. Bon là, j'ai perdu la moitié de l'auditoire. Les hommes se disent, attends là, tu vas peut-être un petit peu loin. Ah, c'est dur pour un homme d'imaginer recevoir une annonce qu'il peut être porteur de Christ, tout comme Marie. Et pourtant. Alors, si nous voyons et regardons l'Écriture avec attention et avec l'aide du Saint-Esprit, on s'aperçoit que Marie est actrice du plan de rédemption de Dieu. Elle en est un maillon essentiel. Et nous ne pouvons pas l'ignorer ou ignorer la volonté de Dieu de choisir cette femme. Alors après, il y a tout ce que l'iconographie, les représentations, les croyances, les cultures, les habitudes nous ont laissé de Marie. Je regardais avec beaucoup de plaisir, il y a quelques jours, toute l'iconographie religieuse qui parle de l'Annonciation. Il y a, au XVe siècle, les peintres flamands qui ont été vraiment très inspiré par cette annonce avec l'ange Gabriel, avec Marie. Il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas encore toutes ces histoires-là, mais il y a cette représentation de cette femme qui reçoit la visite d'un ange. Et il y a une douceur, une beauté dans ce moment-là qui ne peut que nous toucher. Et quand on sait qu'en plus il s'agit du moment clé de l'histoire de l'univers, le moment où Dieu ouvre les portes du salut. Est-ce qu'on ne peut pas trouver cela merveilleux ? Formidable. Alors si nous croyons que Dieu a choisi Marie, alors nous devons nous attarder aux raisons qui ont pu justifier ce choix. Nous avons à regarder en quoi cette femme est un modèle qui nous est proposé par Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite pour une fois à vous pencher avec moi sur ce texte de Luc qui nous raconte cet épisode dans la vie de Marie. L'Annonciation qui a souvent inspiré les artistes, mais peut-être moins les prédicateurs. Je me faisais la réflexion qu'il y a des textes que je visite, et Michel les connaît, parce qu'à force de me fréquenter, ou même Rémi, depuis 40 ans, ils se disent « Oui, ce texte-là, il a déjà prêché dessus. » Peut-être il y a 15 ans, 20 ans, mais je vous défie de trouver la date ou le moment où j'ai prêché sur l'Annonciation faite à Marie. Je vous assure que j'ai cherché dans mon ordinateur, j'ai aucune source. Au commencement, au commencement. Ça, c'est le début de la Genèse et celui de l'évangile de Jean. Mais au commencement, l'évangile de Luc situe le commencement de l'incarnation par l'Annonciation, qui a eu lieu, donc, ce récit-là, qui commence au 6e mois. 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est étrange de voir que le récit de l'Annonciation commence par une date. C'est au 6e mois. Mais au 6e mois de quoi ? En fait, il s'agit du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, cousine de Marie. Étrange comme point de départ pour l'Annonciation. En fait, l'Annonciation, l'annonce de la venue de Christ n'est pas datée par rapport au règne des rois, de César, d'Hérode, comme le ferait une chronique historique. Et c'est très étrange, parce que s'il y a un écrivain ou un auteur dans le Nouveau Testament qui est soucieux du suivi historique de la bonne nouvelle, c'est Luc. Or, dans son inspiration, et là, le Saint-Esprit y est présent, il dit « au 6e mois », parce que la bonne nouvelle ne s'inscrit pas dans l'histoire ou la grande histoire des hommes. L'Annonciation est datée par rapport à cette grossesse d'Élisabeth. C'est pas un hasard. La naissance de Jésus est mise en relation avec la naissance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est le précurseur. On appelle ça en grec le prodromos, celui qui vient avant. Et à l'époque de Jésus, la tradition juive s'attendait à ce que la venue du Messie, fils de David, soit précédée par le retour du prophète Élie, mystérieusement enlevé dans une nuée et dans un char de feu. Vous lisez ça dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, verset 16. Ce nouvel Élie, ce Messie, devait frayer un chemin pour préparer le grand jour de l'Éternel, en invitant les hommes à se convertir et en restaurant Israël. Alors, le 6e mois, quand Luc commence le récit de l'Annonciation, il le greffe dans une histoire qui est inscrite dans le plan de salut de Dieu depuis l'Ancien Testament et la Torah. Tous étaient convaincus en Israël que cette parole du prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. » Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin d'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Au 6e mois, à ce moment-là, le plan de Dieu, il est bien précisé, il n'est pas subordonné aux échéances ou aux étapes de l'histoire des hommes. Le plan de Dieu s'inscrit dans son plan à lui, révélé dans sa parole pour que les hommes puissent en saisir la venue. Tout Israël attendait cela, celui qui allait préparer le chemin de l'Éternel, du Messie, en aplanissant dans les lieux arides une route pour le Seigneur. Consolez, consolez mon peuple. Le commencement de la consolation de Dieu est proclamé au 6e mois. Ah ! Comme certains disent aujourd'hui que la parole de Dieu est moins importante que les expériences que nous pouvons vivre avec Dieu, j'ai encore entendu cela il n'y a pas longtemps, j'affirme, et j'ose affirmer pour ma part, vous le partagez ou pas, à vous de voir, mais que le Saint-Esprit vous guide. Moi, j'affirme, pour ma part, que les expériences n'ont de sens ou de valeur que dans la mesure où elles sont subordonnées à la révélation de Dieu. Et une révélation que Dieu, par l'Esprit Saint, nous fait de sa volonté au 6e mois de son plan à lui. Je ne sais pas quel était l'âge de César, d'Hérode, du grand César, mais au 6e mois de son plan, l'ange Gabriel vient vers Marie. Il y a plusieurs étapes dans l'Annonciation faite à Marie. Le premier, c'est le passage de l'ange et l'invitation qui est faite à Marie. Il y a une autre étape, c'est la réponse de Marie et son acceptation. Il y a un petit mot qui est tout simple dans l'Annonciation, c'est «
oui ».
Et vous savez quoi? Nous avons des anges et des envoyés qui viennent vers nous et qui nous disent « Voici que je veux naître en toi. » Oui? Seigneur, je vais peut-être réfléchir parce que ça va être compliqué. Je vais peut-être attendre. Est-ce que nous pouvons nous aussi rentrer dans la révélation de Dieu? Il y a la réponse de Marie avec cette libre acceptation. Il y a la conception de Jésus. Et puis, il y a l'enfantement et la naissance de Jésus au monde. Ce sont des étapes qu'on retrouve dans l'Annonciation. Le passage, la première étape, c'est le passage de l'ange et l'invitation faite à Marie. Ce qui frappe dans l'attitude de Marie, c'est sa disponibilité et sa conscience de la présence de Dieu en elle. On a l'impression qu'elle reçoit des anges tous les jours. Non ? Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais moi, j'aurais dit « Troublée par la présence d'un ange ?» Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Non, elle est troublée par la salutation. Vous savez quoi ce que cela veut dire ? Ça veut dire que cette femme a été choisie parce qu'elle avait une conscience de la présence de Dieu et qu'elle l'a cultivée. Et que cette présence d'un ange, et pas n'importe lequel, il y a deux anges qui sont nommés par un prénom, c'est Gabriel et Michael, hein, ou Michel, hein, l'archange Michel. C'est les deux seuls dans l'Ancien Testament, et notamment pour Gabriel dans le Nouveau Testament. Et elle a un des deux anges, une des deux autorités spirituelles des lieux célestes qui est là, dit, ah oui, d'accord, mais pourquoi il me salue comme ça ? Gabriel apparaît dans le livre de Daniel à deux reprises. Et il parle à Daniel, et la deuxième fois il rencontre, il dit « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. » Pour te permettre de comprendre les choses qui vont venir. Daniel 9, 22. Il poursuit ensuite en donnant une prophétie sur la venue du Messie, donc de Christ. Il s'agit de la célèbre prophétie des 70 semaines qui indique exactement le moment où Jésus sera crucifié. Dans le Nouveau Testament, Gabriel réapparaît juste avant le récit qu'on vient de lire de l'Annonciation, dans l'épisode où il se présente à Zacharie, un sacrificateur, et il lui dit « Je me tiens », alors qu'il fait son service, « Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler ». À Daniel, il lui dit « Je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre ». À Zacharie, quelques siècles après, « Je suis venu te causer, je suis venu te parler ». Il est un ange qui a un rôle bien précis. Parler, faire comprendre, communiquer. Il y en a certains qui sont des anges qui mènent les combats de Dieu. Lui, un de ses rôles principaux, c'est de communiquer au peuple de Dieu la connaissance de la pensée et des plans de Dieu. Il est avec Dieu et Dieu l'envoie transmettre son message lors d'occasions un peu particulières. Dans Daniel 8, cet aspect de Gabriel consiste à préparer le peuple de Dieu, à lui donner cette connaissance, cette conscience. Dans Luc 1, Gabriel annonce d'abord le précurseur du Messie, Jean-Baptiste, puis il dit à Marie que Jésus, le Messie, va naître. Donc, au sixième mois, l'ange Gabriel continue la poursuite de la révélation du plan de Dieu. J'ai envie de dire que Gabriel est un ange, c'est un envoyé. Comme tout envoyé, il est là pour transmettre un message. Je ne sais pas si vous avez vu un ange rentrer dans votre chambre, mais on a eu un témoignage ce matin qui parle de cette confrontation à Christ qui est venu et qui s'est révélé. Mais je ne doute pas que dans chacune de nos existences, il y ait eu des envoyés, conduits par le Saint-Esprit. Comme ça a été dit ce matin par rapport à une amie, par rapport à un proche, mais par rapport à nous-mêmes, des moments où Dieu a envoyé vers nous des personnes pour porter une parole, pour nous conduire, pour nous révéler la pensée de Dieu, pour nous donner une orientation peut-être dans notre vie. Moi, je sais que j'ai quelques épisodes dans ma vie où j'ai pu dire, là, cette personne-là, elle m'a été envoyée par Dieu pour me dire cela. Et je peux vous assurer que lorsque le Saint-Esprit nous révèle le fait que cet envoyé-là est ou est eux qui vient vers nous, vient de la part de Dieu, si nous en avons conscience et si nous l'acceptons, cela change notre existence. Ça réoriente notre vie. Ça nous fait rentrer dans les plans et les pensées de Dieu. À la fois pour le rencontrer lui, mais à la fois pour vivre des guérisons, à la fois pour remporter des victoires, à la fois pour prendre des décisions, si nous laissons le Saint-Esprit agir et que nous le reconnaissons comme tel, au travers de tel frère, telle sœur qui vient vers nous. Ange, en grec, ange, ça veut dire envoyé, tout simplement. Apostolos, apôtre, ça veut dire quoi déjà ? Envoyé. Donc, nous pouvons recevoir des envoyés de Dieu comme l'ange Gabriel, des créatures célestes, mais des hommes et des femmes qui sont envoyés par Dieu. Et nous pouvons aussi, en tant qu'apôtres, être envoyés. Alors, quand je dis apôtres, c'est-à-dire que nous pouvons tous, pour notre part, être des envoyés de Dieu si nous nous laissons conduire par lui. Nous sommes au bénéfice des envoyés de Dieu, comme Marie, mais nous pouvons aussi devenir des envoyés de Dieu si nous laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Le rôle de Gabriel, c'est notre rôle. Dans un sens, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas très différent de ce qu'il demande à Gabriel. Dans la Bible, les êtres spirituels envoyés par Dieu sont appelés anges, comme je viens de le dire, et les hommes envoyés sont appelés apôtres. Et je souhaite qu'il y ait au milieu de nous beaucoup d'apôtres envoyés par Dieu. Le rôle de Gabriel, c'est de parler au nom de Dieu. Notre rôle, c'est de parler au nom de Dieu. Si nous voyons quelqu'un, et en bord de mer, on l'imagine bien, si nous voyons quelqu'un tomber à l'eau et se noyer, est-ce que nous disons, c'est pas mon rôle, il faut que j'aille appeler et aller au poste de secours le plus proche? Quand les secouristes arriveront, la personne sera morte. Est-ce que face à quelqu'un qui se noie parce que dans le désespoir, parce que dans l'absence de réponse à ses besoins, est-ce que nous disons, oh, ce n'est pas mon devoir, il faut que j'aille appeler le pasteur, ou il faut que j'aille appeler Michel pour qu'il... J'ai vécu une chose très simple cette semaine. Très simple et compliqué. Vous avez un téléphone fixe chez vous ? Oui ? Vous avez un téléphone portable ? Oui ? Lequel vous utilisez le plus ? Le portable, pourquoi ? Parce qu'on l'emmène partout ? Puis moi, je n'utilise plus la ligne fixe et ma femme me dit, réponds pas, c'est pas la peine. Mais bon. Et bah oui, pourquoi ? Parce que tous les matins, j'ai à peu près 10 appels de publicité. Donc, on ne répond plus. Et parfois, on peut être aussi dans la même attitude avec le Saint-Esprit. Il y a des fois, on est connecté, on a une ligne fixe, hein, pas seulement un portable, hein, sur nous et en nous et pour nous. Non, on a une ligne fixe, connectée directement avec le Seigneur. Et puis, il y a des fois, il appelle, et puis ben, on ne répond pas, on ne décroche pas. Sauf que, je me suis rendu compte il y a quelques mois que le téléphone de l'église a un système de renvoi chez moi, sur ma ligne fixe. Et un jour, ça a téléphoné, je l'ai à portée de main sur mon bureau, donc j'ai pris le téléphone, je dis « Oui, allô !» Publicité. Et au bout du fil, il y a une dame qui m'a dit « Bonjour, vous êtes bien le pasteur de l'église apostolique ?» Et j'étais là, oui. Alors je lui ai expliqué, j'ai dit, excusez-moi, j'ai pas été très amène, mais c'est parce que... Et en fait, c'est quelqu'un qui avait un besoin. Et cette semaine, j'ai vécu la même chose. Une sœur que je ne citerai pas, quelqu'un qui m'a appelé en me disant, voilà, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui est en train de mourir. Et je voudrais lui apporter de la consolation. Elle sait que je suis chrétienne, je prie pour elle, je prie avec elle. Et vraiment, là, elle est en fin de vie. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui apporter comme parole d'espérance de l'Écriture? Et là, j'ai cherché tout de suite et j'ai dit, ben voilà, il y a telle parole. Puis on a eu un entretien pendant une dizaine de minutes. Vous savez quoi? Cette sœur-là, c'est un ange. C'est une envoyée. Elle a porté la parole d'espérance et de vie de Jésus-Christ à cette personne qui est en train de partir. Ouais. On ne sait pas vers qui Dieu veut nous envoyer, mais est-ce qu'on est prêt à être envoyé, à être porteur de cette parole? Marie n'a pas la l'attitude ou en tout cas le comportement de ce que nous transmettent les traditions. Hein. Elle a été vraiment une femme qui a reflété l'espérance et la foi. Lorsqu'elle est saluée, elle est saluée par l'ange qui lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Je trouve que c'est une salutation un peu particulière. En fait, dans le texte grec, c'est « Haire kera rito mene ». Vous suivez? Je vous assure, je lis, mais je ne le parle pas couramment. Hein. Mais ça veut dire « Réjouis-toi, la grâce sur toi, Dieu est avec toi ». Ça, c'est de la salutation. Quand l'ange lui l'interpelle et lui dit d'abord « Sois joyeuse! Réjouis-toi, sois joyeuse! » Moi, c'est rare que je vous salue comme ça. On ne sait jamais, on peut avoir quelqu'un en face de soi qui est triste, déprimé, et c'est justifié. Alors dire à quelqu'un, réjouis-toi, à peut-être prendre des nouvelles d'abord. Hein. Mais là, par rapport à Marie, l'ange lui dit, sois dans la joie! Réjouis-toi! Pourquoi? La deuxième partie, c'est la grâce sur toi. La grâce est sur toi. Et vous savez quoi? On devrait se lire cela à soi-même tous les jours, devant la glace. Moi, je disais ça aux patientes au travail, quand elles étaient en baisse d'estime d'elles-mêmes de manière assez forte, et puis qu'elles savaient qu'on était dans un entretien un peu plus libre, notamment au niveau de la foi. J'ai dit, allez dans votre chambre. Il y a un appareil spécial dans votre chambre. Il y a bon, où ça 9 mètres carrés, la chambre. Donc, elle dit, mais il y a un appareil, je ne l'ai pas vu. Si, si, c'est au-dessus du lavabo. Ça s'appelle une glace. Et puis là, quand vous vous mettez devant cet appareil-là, vous regardez là et vous citez cette parole de David dans les psaumes. Oh, merci Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous regardez et vous verrez, ça marche. Parce que petit à petit, l'assurance d'être une créature merveilleuse devient une évidence. Moi, je me le dis tous les jours, très souvent. Peut-être un peu trop. Réjouis-toi, la grâce est sur toi. Tu te réjouis, non pas de ce que tu es dans ce monde, mais tu te réjouis parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et si elle est sur Marie, c'est là qu'elle a cultivé cette réalité. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Du haut du ciel, Dieu et le Saint-Esprit n'ont pas fait Amstram, Grampi. Non, 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 non. Ils ont choisi une femme qui avait conscience de la grâce de Dieu dans sa vie. Réjouis-toi, la grâce sur toi, Dieu est avec toi. Et si nous disons ces paroles-là de la même manière sur nous, si nous avons conscience de cette salutation de l'Esprit-Saint en nous, alors, même si les épreuves et certaines sont justifiées pour nous plomber, pour nous alourdir, pour nous attrister, mais il y a quand même dans un coin de notre cœur, de notre esprit, cette joie qui commence à poindre, ce soleil de justice qui commence à se lever sur nos ténèbres et qui dit « Oui, je peux me réjouir parce que la grâce est sur moi et que Dieu est avec moi. » La première chose que ce texte nous dit, c'est qu'elle a une très grande sensibilité. Dans le texte, il est dit « troublé par cette parole ». Alors moi, je vous disais en préambule, bah, je trouve que j'aurais d'abord été troublé par d'avoir un ange ou un archange dans ma cuisine ou dans ma salle à manger. Mais non, elle est troublée par ces paroles. Mais le mot qui est utilisé, « diataraso » en grec, c'est pas « troublé ». Moi, je suis troublé quand j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve une lettre. « Tiens, ah ouais, tiens !» Un tel, oh, je suis étonné, il m'écrit, elle m'écrit, là je suis troublé. Non, le mot grec c'est bouleversé. C'est pour ça que certaines de vos traductions ont très ému. Parfois, on peut être bouleversé parce que Dieu vient à notre rencontre et tout à coup sa présence, l'action de son esprit, c'est pas n'importe quoi. Tout à coup, ça nous prend aux tripes. Ça bouleverse notre équilibre, à la fois émotionnel, psychique. On est bouleversé. Le mot qui correspond, c'est « elle fut bouleversée par cette salutation et cette rencontre ». Ce n'est pas Gabriel, juste un ange qui débarque chez elle, qui la bouleverse. C'est le message qui lui est adressé. Est-ce que nous sommes, nous aussi, bouleversés par le message qui nous est adressé par le Saint-Esprit ? Si nous ne le sommes pas, alors c'est peut-être qu'on s'est habitué. Ouais, maintenant, c'est un ange, hein. C'est jamais qu'un ange. On va pas en faire non plus un fromage, hein. Non, c'est vrai, quoi. Moi, j'en ai un à la maison, je vis avec. Or, les autres anges, oui, je parle de toi. Il y a ma femme qui me regarde en me disant, ah bon, il y a un ange à la maison. Oh là là, il faut mettre les points sur les i. Non. Est-ce que nous sommes bouleversés intérieurement par la présence de Christ en nous, par ce que le Saint-Esprit nous révèle de cette grâce dont nous sommes les bénéficiaires? Si nous ne sommes pas bouleversés, alors, chers amis, il est temps de cultiver cette relation, c'est qu'elle s'est attiédie. Et vous savez ce que l'Apocalypse dit des tièdes. Revenons à cette relation, à cette intimité, à la richesse de cette grâce qui nous a été faite. C'est souvent par l'ignorance de la présence de Dieu en soi que l'on néglige les mouvements intérieurs très profonds. Ça, c'est Paco. J'ai oublié, c'est Simone Paco Simone Paco qui écrivait ça dans un de ses livres, « L'ouverture à l'esprit ». C'est souvent par l'ignorance de la présence de Dieu en soi que l'on néglige les mouvements intérieurs très importants. Et parfois on se dit, mais je ne vis rien, je suis en calme plat, il y a le vent des globes qui part, et puis il va y avoir calme plat, pas de vent. Alors je suppose qu'effectivement, les marins vont devoir se dire, ah mais j'espère que ça va se lever, j'espère que le vent va venir pour qu'on puisse partir, faire le tour de la terre. En est-il de même pour les chrétiens? Est-ce qu'ils se disent, mais pourvu que le vent de l'esprit se lève afin qu'il me fasse avancer et qu'il m'emporte dans les plans de Dieu, dans les pensées de Dieu, dans la révélation de Dieu? Non. L'ignorance du vent de Dieu, de l'Esprit Saint, ça peut générer une forme d'insatisfaction, mais ce n'est pas lié au Saint-Esprit, c'est lié à nous. La réponse de Marie, c'est une libre acceptation, une acceptation active. Et le oui de Marie, il est bien révélateur de sa personnalité ici. Nous sommes là dans la phase du consentement. J'aime à dire que le Saint-Esprit ne nous fait pas violence. Jamais. Que ce soit dans les... Alors je sais qu'on ne partage pas tous ces points. L'exercice des charismes, Dieu ne va pas m'obliger à... Moi, je prophétise une fois tous les 5-6 ans. Et encore, je crois que la dernière fois que je l'ai fait, ça devait faire bien 10 ans que je n'avais pas apporté. Bon, mais je sais que quand le Seigneur me dit là, voilà, il y a quelque chose que tu dois apporter, une pensée, une parole, etc., j'ai le droit et je peux refuser. Il ne me contraindra pas. Il n'y a pas de contrainte de la part de Dieu, ni pour la conversion, ni pour... J'ai entendu, oh, pendant 2 jours ou 2 nuits, ça, je me suis... Pourquoi 2 jours? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1? Pourquoi? Ben parce que le Saint-Esprit nous travaille et nous amène à collaborer avec lui. Et c'est l'apprentissage permanent de l'écoute de l'esprit qui fait que je peux réagir plus vite, avancer, faire les pas qu'il me demande. Mais si je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. C'est ça la grâce. Dieu ne nous contraindra pas. Il nous mettra une légère pression, mais comme on le fait avec nos enfants, non ? C'est pas ce qu'on fait avec nos enfants. Ouais, on leur a appris l'obéissance en mettant un peu la pression. Tu vas ranger ta chambre. 30 secondes après, on ne vient pas en disant « Alors, tu l'as rangé ?» Non. Ma femme, elle me dit ça, elle me dit « T'as rangé le linge qui est sur ta chaise dans la chambre ?» Mais elle ne revient pas 30 secondes, parce que si elle me dit « Oui, si elle me disait 30 secondes après, t'as rangé le linge sur ta chaise dans la chambre ?» Je dirais « Bah attends, tu viens de me le dire. » Bon, alors parfois, ça prend une journée, deux jours, trois jours. Ça dépend de ma réactivité. Mais si ma femme fait preuve de grâce, je peux vous assurer que Dieu a fait preuve de grâce dans ma vie de la même manière. Il ne m'a pas contraint. Alors, on voit que Marie a été bouleversée, mais contrairement à Ève qui a ouvert la porte de son cœur au discours de l'adversaire, Marie discerne qui la visite, et pas seulement Gabriel, c'est Dieu qui la visite. Elle va cheminer pas à pas dans la révélation de Dieu pour elle. Dieu vient à la rencontre des hommes par Jésus-Christ, et l'Esprit leur parle de multiples façons. Hébreux 1:1, l'Esprit parle, et il va parler de différentes manières jusqu'à ce que nous obéissions. Moi, je me rappelle, 98, demi-finale de France-Allemagne, et je faisais un camp de vacances en Normandie, et j'ai pris ma voiture, une vieille voiture, qui perdait son coffre, une de chevaux, tout le temps. Je raconte souvent cette histoire-là. Et entre la mi-temps, j'avais un quart d'heure pour aller du camp de vacances à chez moi. C'était un peu juste, donc j'avais appuyé un peu sur le champignon, et la voix du Seigneur me dit « Arrête-toi, 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 arrête-toi ». Et ça a duré pendant 5-10 minutes. « Arrête-toi ». Puis moi, j'étais là dans la voiture. « Oui, 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 Seigneur, oui, 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 mais il y a la deuxième mi-temps qui arrive ». Et puis, à un moment donné, je dis « Mais bon, j'ai vérifié le coffre, il était bien accroché et tout. » Puis j'arrête en pleine nuit la voiture, et là, je m'aperçois que non seulement le coffre était bien accroché, mais qu'à 10 mètres de moi, au milieu de la route, il y avait une vache. Parfois, il est sage d'écouter le Saint-Esprit. Moi, j'ai argumenté. Heureusement que le Seigneur a tenu compte aussi de ma capacité de résistance. Donc, il a dit, bon, il faut que je lui parle là pour qu'il s'arrête là. Mais vous savez quoi ? Mais dans nos vies, Dieu nous connaît. Il sait aussi nos capacités de résistance. À ne pas dire oui tout de suite, à ne pas obéir. Marie était dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Contrairement à Ève qui a ouvert la porte de son cœur au discours de l'adversaire, Marie, elle entend Dieu. C'est souvent par l'ignorance, vraiment, de la voix de l'esprit qu'on passe à côté des grandes choses. Ève a dit oui au trompeur, oui à l'adversaire, et elle et Adam sont rentrés dans la confusion, les deux. Ils ont adhéré à la proposition de l'adversaire. Oui, nous voulons être des dieux, d'accord. Genèse 3:1. Jésus a dit non à Satan. Dans les temps de tentation, il était homme, il a dit non. Lorsque Pierre lui a dit « Mais attends, tu ne vas pas entrer à Jérusalem, je vais te défendre », il a dit non. À multiples moments dans sa vie, Jésus a dit non. Et puis, ensuite, il a dit oui au moment des jours de sa passion, de la crucifixion. Et c'est Marguerite Margon qui disait de Jésus « Il était désolé, mais non séparé du Père et des hommes, alors que sa volonté était alors d'échapper à cette terrible épreuve. » Dans Luc 22, 42. « Il était désolé, mais non séparé du Père. » Il a continué à dire oui à Dieu. Est-ce que nous aussi, dans les moments difficiles, nous pouvons être dans cette attitude de dire oui, même dans les moments difficiles? Et je sais que certains traversent des moments difficiles. Mais je te dis oui, Seigneur, même si c'est difficile. J'aurais juste terminé avec la notion de conception de Jésus. Dans le texte de Luc, nous voyons que l'ange lui dit, voilà, comment ça va se passer. Parce que Marie a quand même une question, alors que l'ange lui dit, voilà, ne crains pas, tu as trouvé grâce, n'aie pas peur. Parfois, le plan de Dieu dans notre vie, ça peut nous faire peur. Hein. Pas quand Dieu dit, tu quitteras ton pays, la Suisse, pour venir en Bretagne, annoncer l'évangile aux petits Bretons et aux petits Français. Moi, je conçois qu'une femme puisse dire, il n'y a pas autre chose. Moi, je me suis réjoui quand Michel, avec un autre pasteur, on dit, on a le sentiment que tu sais juste que tu viennes en Bretagne pour servir Dieu. Moi, c'était plus facile. Je dis oui, c'est quelque chose qui... Mais parfois, on peut avoir des craintes, des peurs dans les chemins que Dieu nous propose. Alors, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui a donné ce qui va se passer, mais... c'est André Chouard qui dit, je suis nubile, c'est-à-dire je suis une jeune fille qui n'a pas connu d'homme, et d'homme au sens large. Donc, comment ça pourrait se faire ? Elle a une question, et Dieu, lorsqu'il souffle par son esprit pour nous conduire dans des chemins nouveaux, il n'est pas contre le fait que nous posions des questions. Poser des questions, ce n'est pas de la désobéissance, ce n'est pas de la résistance, mais c'est un dialogue avec notre Père. Oui, mais comment ça va se faire? Comment ça va se produire? Etc. Et il va lui expliquer de quelle manière la puissance du Très-Haut va la couvrir de son ombre. Et ce qui est intéressant dans le verbe qui est utilisé par l'ange, c'est qu'il utilise un verbe qui veut dire être enceinte en français, mais en fait, dans la réalité, c'est réunir et rassembler. Le verbe, c'est sulem psé, et ça veut dire, en fait, tu vas être celle qui va rassembler et réunir. Mais rassembler et réunir quoi? En fait, en Marie, l'annonce est faite qu'elle va être celle qui va réunir le ciel et la terre, le divin et l'humain. C'est elle qui va réunir le spirituel et le charnel. C'est elle qui va porter en elle et Dieu et l'homme. En fait, le être enceinte dont il est parlé ici, dans Luc, c'est réunir en soi. Et vous savez quoi? On se dit que la foi de Marie va permettre de connaître le mystère divin et elle va dire oui à ce mystère. Mais en fait, la question c'est, est-ce que nous ne sommes pas nous, à l'instar de Marie, appelés à vivre le même mystère? Nous disons assez facilement que nous portons Christ en nous. Ouais. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que nous sommes, à l'instar de Marie, appelés à être porteurs, hommes et femmes, de la personne de Christ en nous. Le Christ par l'Esprit Saint qui se révèle et qui est en nous. On le voit, Marie peut être pour nous un modèle de foi. Elle nous montre que la grâce de Dieu nous précède, elle nous montre que la foi repose sur cette intériorité et que nous avons la responsabilité de porter Christ en nous. Je ne sais pas comment vous faites quand vous croisez des jeunes mamans ou des femmes enceintes dans la rue. Moi, j'ai toujours un petit sourire, j'ai remarqué ça cette semaine parce que je travaillais à la fois sur le texte, puis d'un coup, à Leclerc, je croise une dame avec un bon ventre et je trouvais ça beau. Je dis, voilà, elle porte la vie. Il y en a d'autres. Hein? Et c'est vrai qu'on voit une femme qui porte la vie, on se dit « Waouh !» Vous savez quoi? Est-ce que quand je croise quelqu'un, il y a quelqu'un qui voit que je porte Christ? Bon, je sais que parfois, on peut voir que je peux être en début de grossesse. Mais est-ce qu'on voit que je porte Christ? Est-ce que ceux qui te croisent se disent « Waouh !» c'est beau, c'est beau. C'est un missionnaire en Inde qui marchait au milieu de la foule en Inde. Il y avait du monde. Et il y a une femme qui était une mendiante qui l'a interpellée. J'ai lu ce témoignage il y a plus de 40 ans, mais ça m'a frappé. Et puis la femme qui était mendiante a crié « Hé, toi, toi qui portes la lumière du soleil sur ton visage, viens me voir !» toi qui portes la lumière du soleil. Il resplendissait tellement de la paix de Christ que cette mendiante-là l'a appelé. Est-ce que les mendiants de ce monde, et je ne parle pas de leur situation financière, qui croisent le chrétien ou la chrétienne que tu es, disent « Et toi, tu portes en toi quelque chose dont j'ai besoin, quelqu'un dont j'ai besoin. » L'enfantement, la naissance de Jésus au monde. Dans Colossiens, il est dit « C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre. » Paul parle à l'Église. « J'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'Annonciation de Marie parle aussi de la présence de Christ en nous. Seigneur, merci de nous parler par ton Esprit Saint. Merci pour cette femme qui t'a dit oui. Merci parce qu'elle t'a donné au monde. Et que nous sommes appelés, Seigneur, nous aussi à te porter en nous et à te proclamer et te donner au monde. Garde-nous, Seigneur, de limiter l'action de la révélation de l'Esprit Saint en nous, de ta personne, de ton être, de ta pensée. Fais-nous rentrer dans tes plans pour notre vie, mais aussi pour ce monde. Qu'importe la couleur du temps autour de nous, les élections de tel ou tel pays, les situations économiques. Donne-nous simplement, Seigneur, de te porter en nous et te donner au monde comme la réponse ultime, celle de l'amour du Père. Amen.